Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. L'éternel jeune homme que vous demeurez a décidé de rajeunir de 6 décennies pour enregistrer à nouveau des chansons qui ont fait scandale avant de devenir des classiques contemporains, puisque les paroles demeurent résolument dans l'air du temps. Bonjour Antoine.
Bonjour Jacques. Alors, comment allez-vous?
Très bien. Là, vous n'êtes, on ne va pas parler aujourd'hui de voyage, parce que je sais qu'à chaque fois que vous venez dans les clés d'une vie, vous êtes entre deux pays, à bord de votre bateau. Mais là, il y a un événement qui est la sortie sur les plateformes d'une nouvelle version de chansons qui sont des classiques.
Voilà, c'est des chansons que j'ai écrites, composées quand j'étais totalement inconnu. Il y en a une qui est arrivée, qui a été un grand bouleversement, qui était Les Élucubrations. Oui. Donc elle figure dans ce nouvel enregistrement. Mais d'autres qui ont tout d'un coup pas eu leur chance, en quelque sorte, quoi. Alors on va leur redonner une autre chance.
Alors on va évoquer ça, bien sûr, à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie que vous connaissez par cœur. Alors, première date que j'ai trouvée, c'est votre première scène. Et d'après mes calculs, c'est le 4 novembre 1965, au Salon de l'Enfance, au stand ORTF.
Eh ben oui, j'ai des hésitations entre deux scènes à quelques jours près. Donc c'était le salon de l'enfance, je suis arrivé avec ma guitare, mon harmonica, personne ne connaissait, n'avait encore vu ça en France. Et puis c'est sur un stand de l'ORTF, donc c'est ça. Et j'ai chanté, même pas une chanson que j'avais écrite, c'était un classique du blues, du folk. Baby, let me carry you home, quelque chose comme ça, quoi. C'était un succès. Et ça a été mon premier succès. j'ai des cours de l'école centrale. Le lieutenant de mon jeune directeur artistique qui est devenu un grand producteur, Christian Fechner, le jeune lieutenant qui s'appelait, j'ai oublié son nom. Germinal Tenace, voilà. M'a dit, je savais pas du tout, moi. J'ai joué la guitare et ça a marché.
Alors, le salon de l'enfance, il faut savoir que c'est né en 1946 et que ça a été d'abord au Grand Palais, ensuite ça a été au Parc d'Exposition de la Porte de Versailles et ensuite à Puteaux, au CNIT. Je ne sais pas quel salon vous avez participé, ça a totalement disparu aujourd'hui.
Ah oui.
Mais c'était un lieu pédagogique et ludique.
Ah oui. Eh bien, je disais que j'hésitais entre cette date-là pour la première. Bon, je ne parle pas des quand j'ai chanté dans les rues à Marseille, oui, ou ailleurs, hein. Mais une autre fois, à peu près à la même époque, avec mon camarade de centrale qui m'a aidé à composer des chansons. Lui écrivait des musiques et moi, de certaines chansons, et moi j'écrivais les paroles. Et tout d'un coup, on a été invité à chanter au cercle militaire c'est du côté de la grande église Saint-Philippe-du-Roule, oui, par là, au cercle militaire. Et c'est la première fois que j'ai chanté ma chanson qui s'appelait La Guerre. Voilà.
Exactement.
C'est au cercle militaire.
Alors, il se trouve que vous avez les cheveux longs et qu'à centrale, ça passe très bien parce que finalement, un ou deux élèves originaux, dans chaque promotion, c'est possible.
Oui, à centrale, il y avait des élèves. Bon, 10 ans avant moi, il y avait eu Boris Vian.
Oui.
Et puis surtout, il y a une anecdote célèbre qui m'a été confirmé récemment par la fille de l'ancien directeur de l'école centrale. Et histoire authentique, c'est que un jour, il y a quand le succès est arrivé avec les Élucubrations et les cheveux longs, il y a un jour un ancien centralien qui est allé voir le directeur et dit, mais mon cher camarade, tu ne trouves pas que c'est une honte que ce jeune garçon déshonore notre école et tout. Alors le directeur l'a pris par le bras en parlant, il l'a amené dans la galerie où il y avait les portraits de tous les créateurs de l'école. Et comme l'école a été créée à peu près sous l'époque de Napoléon Bonaparte, eh ben tous les créateurs, ils avaient tous les cheveux longs. l'ancien récalcitrant a dit, ah bon, d'accord. Bon,
vous n'êtes pas parmi les très bons élèves, vous avez la moyenne sans plus.
Je suis rentré avec un très bon classement, oui, mais je peux pas dire, la dernière année, j'étais plus préoccupé des chansons, puisque j'ai chanté, j'étais en vedette à l'Olympia, et le jour même où je chantais, où je faisais mon dernier examen à l'école, oui, centrale.
Ça fait un choc. Alors, en fait, l'école vous intéresse pas beaucoup, la chanson, oui, mais surtout, c'est la route qui vous intéresse, et on peut résumer cette passion par une chanson qui figure sur cette nouvelle version.
Je reprends la route de ma Mon patron me fout à la porte.
C'est vrai que vous avez vagabondé sur les routes d'Europe dès vos jeunes années, Antoine.
Ah oui, d'abord mon enfance a été très vagabonde par le fait, parce que mon père voyageait beaucoup pour sa profession. Il construisait des ponts, il réparait des routes pour les travaux publics dans les territoires d'outre-mer. Donc j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai vécu au Cameroun, mon père avait voyagé aussi j'étais né à Madagascar, donc j'avais beaucoup voyagé. Mais sitôt que j'ai découvert cette ambiance du folk, du blues, avec des copains américains qui étaient venus passer un mois de vacances dans ma famille à Grenoble, autour de tous ces voyages, eh ben j'ai été tenté par la route. C'était Woody Guthrie, c'était Dylan, c'était voilà de Kerouac évidemment, et tout d'un coup, il est arrivé une période où on pouvait, c'était un peu du rêve, on pouvait lever le pouce à la sortie de Paris, sur le pont de Sèvres ou je sais pas quoi, ou la porte vers le nord, vers la porte de la chapelle, on levait le pouce et on se retrouvait en toute sécurité et joyeusement, deux jours plus tard à Stockholm ou à Londres ou à Nice, et en sécurité, quoi. C'était vraiment une belle époque pour le voyage.
Et je crois que le premier voyage a débuté boulevard Sébastopol, très exactement.
Le premier voyage, ben c'était en fait, je cherchais à financer un peu. Je partais en voyage, mais j'avais compté sur être guide dans une fête, une exposition sur l'art de la soudure à l'école centrale. Et puis on m'avait viré parce que j'avais les cheveux longs. Ouais. Alors je suis parti. Je me suis dit, est-ce que je vais essayer de gagner décharger des caisses dans les Halles de Paris, qui étaient au centre de Paris à l'époque. Et puis, ça n'a pas marché du tout. Personne ne s'est intéressé. Et je suis parti pratiquement les poches vides, en stop vers l'Angleterre, et puis vers la Suède, et puis descendre, puis remonter en Suède et retourner en Angleterre. C'était une période un peu folle, mais d'une grande liberté.
Avec une ambition, c'était traduire les chansons de Bob Dylan. Et ça, c'était nouveau. Il y avait Hugo Frey qui le faisait, mais personne d'autre.
J'avais chanté des chansons de plusieurs personnes, entre autres « On est les rois », qui était une chanson « King of the Road » de Miller, je ne me rappelle plus son prénom, et puis les chansons de Dylan. Et c'est vrai qu'au fil de la route, j'ai traduit une dizaine de textes de chansons, parce que les gens qui m'écoutaient dans les rues et tout, ils ne connaissaient pas l'anglais, forcément. Et puis, lorsque je suis rentré, j'avais rencontré Hugo Frey sur la route. Et puis, il était en tournée, lui, avec sa grosse voiture américaine. Et moi, j'étais à un stop. Et il m'avait donné un conseil, parce que je lui ai dit, mais j'ai adapté des chansons de Dylan. Est-ce que tu pourrais les chanter? Il m'a dit, je peux pas les prendre parce que c'est Pierre Delanoë qui traduit les chansons pour moi. Mais je te conseille d'écrire. Il avait écouté ce que je chantais. Il m'a dit, écris tes propres chansons et toi, quoi.
Et je crois que vous aviez une astuce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. Vous étiez rentré dans sa loge avec une guitare sur l'épaule sans aucun contrôle.
Oui, ça, c'était une époque, l'époque était bonne. Je vais pas être nostalgique parce qu'il y a beaucoup de choses formidables dans cette époque. Il y a des trucs incroyable aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, c'était au théâtre du Pharo à Marseille. Un gars dans la rue m'avait dit « Oh, je suis le secrétaire de Hugo Frey. Ah bon, ouais, tu viens le voir. » Alors, je m'étais pointé à l'entrée, mais j'étais pas annoncé, personne. J'avais ma guitare sur le dos. J'en m'avais dit « Bah, allez-y. » Ils avaient pensé que j'étais un des musiciens d'Hugo Frey, quoi. Voilà.
Et une de vos premières chansons, un peu méconnue parce que c'est sur le second album, c'est celle-ci.
Parfois, tu prends ta guitare, les chansons de Dylan ou de Vian, et les yeux s'éclairent bien souvent.
Voilà, Dylan et Vian, une autre autoroute.
Oui, une autre autoroute. Oui, c'est une chanson pour moi, elle est, je dirais pas iconique, c'est un peu prétentieux, mais c'est une chanson, je reçois 60 ans après, c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire. Je croise des gens dans la rue, ou dans les magasins, ou bien je reçois des messages de gens qui retiennent cette chanson-là. Une autre autoroute, elle s'appelle, et c'était vraiment la philosophie. C'est une chanson un petit peu symbolique de cette époque de la route, quoi, qu'on aimait tellement pratiquer.
Alors, il y a aussi deux personnes qui vous donnent un bon tuyau qui va vous servir. Ils s'appellent Tom et Jerry, je crois.
Voilà. À l'époque, il y avait le rock. Le rock and roll, c'était au golf de Drouot, avec, comment il s'appelait, le patron du golf.
Henri Leproux.
Henri Leproux, voilà, c'est ça. Et puis, il y avait des musiciens. Bon, c'est une époque actuelle, je vois. Il y avait énormément de petits groupes de chanteurs, de chanteuses qui arrivent à faire des concerts. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses, les cafés-théâtres, les petits théâtres en pleine province et tout. Il n'y avait pas beaucoup, ça n'existait pas, quoi. Il y avait les grands musicals et pas grand-chose d'autre. Et un jour, je tombe sur deux guitaristes qui avaient des cheveux encore plus longs que moi, et ils étaient déjà assez longs, et on parlait, c'était dans un magasin d'harmonica, d'instruments de musique, chez Paul Becher. Publicité gratuite. Et donc, j'achetais des harmonicas parce que ça s'use vite quand on les souffle dedans ou quand on aspire dedans pour les tordre les notes. Et il me dit, ah, tu me dis... Tu devrais voir un petit gars qui vient de rentrer chez Vogue et qui a promis qu'il allait créer des vedettes. Et qui est un petit gars inconnu, donc j'ai dit son nom, c'est Christian Fechner, et je suis allé le voir.
Il était magicien, je crois, dans le Sud-Ouest.
Il était, oui, prestidigitateur, voilà. Il était de toute une équipe toulousaine, il venait d'Agen, lui. Il venait du service militaire, et il avait écrit à toutes les maisons de disques, disant, votre maison est dépassée, vous êtes, moi, engagez-moi, je vais vous créer 5 vedettes dans l'année. Et, il a pas été loin de ça, quand même. Il a vraiment, Il a été d'abord dans la chanson, puis surtout ensuite il est devenu grand producteur de films, un des plus grands producteurs français.
Oui, et il a même sauvé l'Alcazar quand Jean-Marie Rivière avait pratiquement mis la clé sous la porte pour des raisons financières. Il a sauvé ce lieu mythique de Paris.
Et là, je sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais moi, quelques années plus tard, après 8 ans de chansons, j'ai eu envie de partir en bateau, et j'étais en 74, j'étais en train de finir de construire mon bateau, de faire construire mon bateau, puis j'aménageais l'intérieur, un tas de choses et tout. Vraiment, j'étais prêt à partir, quoi. J'avais réglé tout, etc. J'avais mis toutes mes dernières économies dans ce bateau, et je reçois un appel de Christian Fechner, qui me dit, est-ce que ça t'intéresserait de remplacer Jean-Marie Rivière, je viens de racheter l'Alcazar, oui. Et est-ce que tu accepterais de mener la revue? J'avais mené une revue au Gaumont Palace. Ça avait été une chose merveilleuse, mais qui n'avait pas bien fonctionné. Et il m'avait appelé pour que je fasse ça. Et j'ai dit, mais écoute, Christian, c'est gentil, mais j'ai mon bateau, il vient d'être mis à l'eau, je pars, non, merci d'avoir pensé à moi, mais non, voilà. J'aurais pu avoir une autre carrière d'animateur de revue.
Alors, avant, il s'est passé d'autres choses, et il y a une autre date importante dans votre parcours, le 19 décembre 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine, avec la résurrection, si j'ose dire, de 7 chansons enregistrées en 1965 et qu'on trouve aujourd'hui sur les plateformes. On en a écouté quelques-unes. Ça donne l'occasion de parler de votre parcours. Et le 19 décembre 1965, c'est un soir historique.
Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%.
Et Charles de Gaulle est élu président de la République au première élection au suffrage universel. Et entre deux résultats, parce qu'à l'époque, il faut des heures, il y a des chanteurs, dont vous.
Voilà, on m'avait demandé, c'était bon, ma toute première télévision, j'avais publié un 45 tours avec une chanson qui s'appelait « Autoroute européenne numéro 4 » et une autre qui s'appelait « La guerre », et qui était un peu un constat de situations qui, malheureusement, sont encore d'actualité. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit « Ah non !» Chanter la guerre, le soir des élections, la direction, il y avait une interdiction venant du général de Gaulle, venant de l'Élysée. Oui. Non, vous ne chantez pas cette chanson-là. Et alors, le réalisateur était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, parce que j'allais voir ses émissions tout le temps à la Maison des élèves de Centrale, à la télé, et c'était Jean-Christophe Averty. Jean-Christophe Averty, et il me dit, non, écoute, tu peux pas te faire chanter, tu vas chanter une autre autoroute européenne numéro 4. Par contre, tu viendras le mois prochain dans mon émission qui s'appelait Les Raisins Verts, ou des choses comme ça. Il y avait d'autres titres. Et donc, il m'a invité. Ce soir-là, j'ai chanté l'autre chanson, et La Guerre, je l'ai chanté ensuite, et c'était un fou pour ceux qui se rappellent Jean-Christophe Averty. Il était en avance de plusieurs générations. Il aurait adoré avoir les moyens qu'on a maintenant, l'informatique, tout ce qu'on peut créer, l'intelligence artificielle. Il faisait des émissions complètement folles, mais que j'adorais.
Alors, une autre autoroute, il y a un extrait du début qui est aussi très intéressant parce que ça plante le décor de cette chanson.
La route s'est ouverte à tes pas. Tu sais que
et pourquoi je la recite, c'est qu'à cette époque s'ouvrent les premières autoroutes en France, qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. En fait, les premières autoroutes dataient de 1927. En 46, on a commencé à en parler. Et à peu près, quand vous faites cette chanson, on a les premières autoroutes avec une vingtaine de kilomètres.
Voilà. Et lorsque j'ai cette chanson, cette émission dont on vient de parler, les élections, là, était présentée par Georges de Cône.
Oui.
Georges de Cône, que j'aimais beaucoup aussi Georges de Cône. J'ai regardé ses émissions et j'écoutais ses émissions à la radio. Une qui s'appelait CQFD, je sais pas si vous vous rappelez, oui. Ça, c'était l'aventure et tout. Et il lui était parti vivre sur une île aussi.
Oui.
Moi, j'avais pas encore eu cette idée-là, mais il était comme ça. Et Georges de Cône m'a présenté et il connaissait pas la chanson parce que ça avait été décidé au dernier moment et il pensait que c'était une chanson sur la construction des autoroutes.
Ouais.
Alors, il m'a présenté comme un élève de centrale qui construit des autoroutes.
Alors, votre premier rendez-vous avec Christian Fechner a failli ne pas se dérouler parce qu'il s'était pas réveillé, je crois.
Oui, il s'était pas réveillé. Voilà, c'était une équipe de Toulousains qui étaient un petit peu des branleurs. Hein. Ils ont fait leur preuve après, mais c'était des Toulousains qui étaient montés à Paris. Et il m'avait donné rendez-vous. J'arrive au studio et il arrive. J'attends. Il était pas là. Moi, j'avais séché un cours de l'école centrale, un amphithéâtre de l'école centrale. Et puis, j'ai dit, la secrétaire était gentille, elle me dit, je vais essayer de l'appeler. Elle le réveille, il était midi, elle le réveille, et elle dit, et elle lui dit, mais il est comment, quoi il ressemble? Il dit, il a les cheveux longs, il a une chemise à fleurs, non, j'avais pas encore la chemise à fleurs, il a les cheveux longs, il a une guitare et un harnais pour harmonica. Qui ne part pas, j'arrive. J'arrive. Et Fechner est arrivé.
Et il a tout de suite cru en vous. Vous avez fait les premières maquettes avec, en régie, un de ses adjoints qui est devenu célèbre, je crois, qui était Alain Boublil.
Alain Boublil, oui, c'est-à-dire que c'était pas un des adjoints. C'était lui, était Alain, dirigeait les éditions, la partie édition de la Maison Vogue. Donc c'était un beau début entre Fechner, qui est devenu un des plus grands producteurs de cinéma de France, et Alain Boublil, qui a quand même fait Les Misérables, qui doit être l'homme le plus célèbre du monde, le français le plus célèbre du monde.
Et il se trouve que donc le premier disque est enregistré en 3 heures, pratiquement.
Ah oui, à l'époque, 3 heures, c'était les musiciens, c'était les problèmes, qui sont devenus en plus les charlots par la suite. C'était les problèmes, et c'était en 3 heures, 2 heures pour faire l'enregistrement de l'orchestre sur une piste, hein.
Oui.
On a peut-être une deuxième piste pour mettre des claquements de mains, quelque chose comme ça. Et puis la voix, une seule piste, et puis, au bout de 3-4 heures, le disque était enregistré, joué, chanté, mixé, tout juste. Bon, on partait avec un disque souple.
Et vos soirées, vous les passiez dans un cabaret que Fechner avait repris, qui s'appelait le Petit Marais.
Oui, le Marais à l'époque était pas ce qu'il est devenu maintenant. Le Marais, c'était le No Man's Land, quoi. Il y avait rien. C'était des bistrots, des pauvres bistrots faméliques, des choses comme ça. Et Christian avait trouvé un deal avec un accord avec ce petit cabaret on allait chanter un petit peu, on allait chanter, en échange on mangeait, quoi. Ouais. Voilà.
Et votre premier cachet, je crois que c'était 30 francs, ce qui était une fortune pour l'époque.
Et j'avais gagné 30 francs, mais ça a été extraordinaire parce que en parlant d'argent, j'avais gagné 30 francs qui correspondraient un peu plus de 30 euros, quoi, ouais. Aujourd'hui. Une semaine après, je chantais dans une espèce de petit bal à Marne-la-Coquette, ouais. Non pas Marne-la-Coquette, un truc comme ça, dans les banlieues de Paris un peu éloignées, et j'ai touché 100 francs, c'est-à-dire 100 francs, presque 100 euros, et un petit peu moins quand même à l'époque, et à peine. Ensuite, une petite tournée où je gagnais à peu près ça par jour.
Ouais.
Et là-dessus, tout d'un coup, on m'invite à chanter en première partie des Rolling Stones. et voilà. C'était tellement rapide que ça n'avait aucun sens, quoi.
Alors, il y a aussi une chanson qui correspond exactement à ce qu'on pensait à l'époque de vous, et elle figure bien sûr sur cette nouvelle version.
Qu'est-ce
Là aussi, c'est une chanson mythique parce que c'est le début des chemises à fleurs et vous étiez là aussi en avance sur votre temps, sur les hippies.
Oui, oui, c'était cette chanson, pour l'anecdote, lorsque le premier 45 tours a un petit peu marché, Christian Fechter a, presque sans autorisation de la maison de disques, presque en cachette, m'a fait enregistrer un album, m'a dit « il faut écrire 10 chansons ». Alors j'ai écrit 10 chansons, entre autres celle-là, et c'est celle-là que Christian Fechter croyait dur comme fer à cette chanson-là, quoi. Et les élucubrations, voilà. Et bon. En fait, c'est le titre qui aurait dû être un succès, c'est celle-là. Voilà.
Mais là aussi, quand on voit vos chemises à fleurs, c'était un événement pour l'époque, parce que à l'époque, les hippies, on n'en parlait pas, Antoine.
Ah, ça n'existait pas du tout, le flower power, les hippies, non. C'était sur la route, l'été précédent, en autostop, et puis quelque part sur la route, je déchire mon jean. Alors à l'époque, c'était pas encore la mode d'avoir des jambes de jean déchirées. Donc il fallait le coudre quelque chose et j'avais que du tissu à fleurs sous la main. C'est des copines anglaises ou suédoises, je sais plus, qui m'avaient donné un bout de tissu et j'avais cousu cette pièce. Et sur la pochette du 45 tours, on me voit avec cette pièce, tissu à fleurs. Et voilà que juste entre le moment où ce disque a été enregistré, où le premier 45 tours a eu un peu de succès, et le moment où est sorti l'album, j'étais parti à Grenoble, j'étais parti pour Grenoble et avec ma compagne de l'époque, et puis on passe dans un petit supermarché là-bas, ça s'appelait, il n'y avait même pas le mot supermarché, c'était des genre les galeries, les nouvelles galeries ou quelque chose comme ça, et il y avait un chemisier pour femme à fleurs, rouge avec des petits points verts et tout, et ma copine, Joël, me dit « Ah, bah, si, tu devrais acheter ça ». Voilà, j'ai acheté ça. Ça se boutonnait du mauvais côté. C'était un corsage de femme, quoi. Et puis il s'est trouvé que je suis arrivé à Paris. Christian Fechter a vu la chemise. Et, oh là là, il faut que tu mettes ça sur la pochette du disque et tout. Et c'est devenu mon uniforme. Quoi.
Exactement.
Et c'est tout. Je trouve ça merveilleux. Tous les déclics dans la vie, toutes les petites rencontres, les petits hasards. Peut-être que si j'étais pas passé devant ce magasin-là, ma vie aurait peut-être changé. Peut-être que la chemise à fleurs a été essentielle. Peut-être que c'est dans le livre de souvenirs que j'ai pu écrire, j'ai toujours remercier ces millions de rencontres, de petits moments qui ont pu tout changer, quoi.
Alors, parmi les chansons, justement, que vous avez enregistrées, il y en a une qui montre que vous étiez déjà en avance sur votre temps.
Pourquoi ces canons au bruit étonnant? Pourquoi ces canons pour faire la guerre?
Et la guerre en 65, on est en 2026, et là, c'est toujours d'actualité.
C'était ces chansons parmi les sept chansons de cet enregistrement-là, oui, que j'ai réenregistré, il y en a au moins deux ou trois qui seraient tout à fait en place, hélas, malheureusement, on est tout autant concernés, peut-être même plus.
Et là, c'était déjà à l'ère du temps, il y avait la guerre du Vietnam, des manifestations. Là, vous étiez presque un symbole de la jeunesse.
J'ai jamais voulu être un porte-parole, hein. J'étais, comme disait Dylan, si vous voulez un message, allez à la poste. Mais c'est vrai que les chansons à l'époque, il y avait la chanson française, la grande ou la populaire. Quand je dis la grande chanson, je parle de Brel, Brassens, etc. Ou la populaire, ça pouvait être les deux, comme Edith Piaf ou Colette Renard ou Toilette derrière. Et il y avait ces chansons-là qui étaient surtout des histoires d'amour, quoi. C'était pratiquement toujours des histoires d'amour, quoi. Et puis, ensuite était arrivé le yéyé, avec des chansons qui avaient, en fait, repris les histoires d'amour. Et c'était très, très asexué, c'était très commercial, le yéyé, quoi. C'était des traductions de chansons américaines, d'un pays qui était déjà très conservateur. Donc, c'était très asexué, quoi. Et puis, tout d'un coup, on a pensé à autre chose, quoi. On avait envie de parler d'autres sujets, des sujets qui nous touchaient, quoi. Il y avait la guerre, bien sûr. Il y avait la sexualité. Il y avait un vent de liberté. C'était deux ans avant mai 68, quoi.
Alors la guerre beaucoup plus pacifique, on va l'évoquer à travers la date du 25 mai 1966. A tout de suite sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine. Antoine, pour ce nouvel album, si j'ose dire, parce que c'est sur les plateformes, avec 7 chansons des années 65 entièrement réenregistrées. On a entendu quelques extraits, on va en parler plus tout à l'heure. 25 mai 66, la guerre des idoles, à cause ou grâce à cette chanson.
Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cas jamais de radio.
Et voilà, émission de télévision à l'instant de cette deux voix avec Albert Rester, qui a d'ailleurs qui a été un roi de l'harmonica bien avant vous.
Oui.
Et qui vous retrouvez face à Johnny alors que c'était pas prévu.
Oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai écrit toutes ces chansons dont je parlais sur la route, sur les événements comme la guerre, etc. Tout d'un coup, est venue dans mon esprit une chanson plus folle, qui était un peu un talking blues, qu'on appelait ça en Amérique, c'était de raconter un peu des facéties, des billevesées sur une musique, les accords du blues, quoi. Et cette chanson qui devait être la 12e chanson de ou la 10e chanson du disque, eh ben c'est elle qui a fait le succès, c'est Les Élucubrations, qui a été un bouleversement en quelques inconnus. Le 15 janvier, j'étais numéro 1 le 15 février, quoi, numéro 1 des ventes en France le 15 février, et à l'Olympia en vedette 2 mois plus tard, quoi.
Alors je reviens à cette émission parce que là on vous a tendu un piège.
Voilà. Et moi, j'étais fan de Johnny depuis toujours, et quand j'avais mis Johnny en cas jamais de Rano, pour moi c'était un hommage, c'était pour rigoler. C'était amusant, ça le secouait un petit peu parce qu'il s'endormait un peu dans des chansons d'amour sirupeuses et tout, mais c'était un hommage pour moi. D'ailleurs, la première, je vous l'ai sans doute déjà raconté, mais la première fois que j'ai rencontré Johnny, en dehors, j'avais vu ses spectacles, mais là, un jour, je chante dans un club à Marseille, une ville qui a toujours beaucoup compté pour moi, et c'est la première fois que j'ai été payé pour chanter dans un cabaret, puis je rentre dans une boîte, et je rentre à l'hôtel, et le portier de l'hôtel, à l'époque il y avait des portiers dans les hôtels, me dit « Ah, il y a votre copain qui est dans la boîte au sous-sol », il y avait aussi des boîtes au sous-sol. Une boîte au sous-sol, et j'ai mon copain qui dit bah, « Johnny, ah ben bah, j'y vais voir Johnny ». Et Johnny, il me dit « Ah, je suis ravi de te voir, j'adore ta chanson, d'ailleurs regarde, j'ai une chemise à fleurs ». Il avait une chemise à fleurs. Donc Johnny adorait la chanson, c'était très amusant. Mais par la suite, il s'est trouvé que mon succès est devenu trop grand. Ça a été tellement fort qu'à un moment, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais il se moque de toi, il dit que là, que t'es dépassé et tout, il faut que tu répondes ». Donc Johnny, avec ses copains, il a concocté une réponse. Et puis, moi j'ai été invité dans une émission, je savais pas qu'il allait être là. C'était Albert Reisner, et il m'a dit « Oh non, mais toi tu chantes là-bas, toi tu es ici, non, non, vous n'avez pas de problème, tu parles ». Il l'avait organisé pour qu'il y ait l'affrontement, et ça a été la guerre des idoles. Quoi.
Voilà. Mais ça s'est arrangé ensuite.
Ça s'est arrangé ensuite, quelques jours plus tard, je crois que c'est Jean-Marie Perrier qui m'a amené avec qui j'étais dans une boîte de nuit, vous arrivez Johnny, il appelle Johnny, il dit « Voilà, je vous enferme tous les deux dans un des salons de la boîte, là. Je vous enferme tous les deux, vous ne sortirez que quand vous serez réconciliés.
Ouais, » Et depuis,
on a été copains, je l'ai accompagné un jour sur scène, il est venu me voir en spectacle, et puis un jour, il m'a demandé des conseils, puis il voulait s'acheter un bateau. Moi, j'ai proposé un voilier, mais il voulait un gros bateau à moteur. Mais voilà, donc j'étais très triste quand il nous a quittés. Voilà, dans la tournée de conférences que je fais actuellement, je se présente pour la dernière fois une dizaine de villes. On a dû faire une soixantaine de villes en France avec d'autres films sur les Caraïbes. Et bien sûr, dans les Caraïbes, je suis allé rendre visite à la tombe de Johnny à Saint-Marthe.
Alors, Les Élucubrations, ça a débuté grâce à un morceau de musique classique. Yvette Horner en 58 enregistre 30 morceaux, Perles de cristal. Et un matin à la radio, vous entendez ce morceau.
Voilà, j'étais dans un petit studio qui va maintenant coûter une fortune parce que c'est dans le cœur du Marais. Et à l'époque, c'était vraiment un taudis, quoi. Il y avait les canalisations qui fuyaient. Il y avait de l'eau qui coulait, des glaçons sur l'escalier, dans le couloir. Et j'ai vivé là. Et puis un matin, je me réveille, j'allume la radio, pardon, et j'entends l'accordéon. Je dis, ça me fatigue, tu nous fatigues, Yvette. Et puis je me retourne vers lui, j'éteins la radio, pour, et je commence à, donc, ça commence à me tourner dans la tête, tu nous fatigues, Yvette, ton accordéon, taf. Et tout d'un coup, je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai écrit trois couplets de la chanson.
Les voici.
Oh yeah! L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette.
Les orchestrations sont fabuleuses, on connaît cette chanson. Yvette Horner, vous n'en a pas voulu, elle était ravie, elle n'a pas eu de problème.
Pas du tout, Yvette, elle a adoré ça, elle a adoré, tout à fait charmante. Je vous dirais même que j'ai eu l'occasion d'aller la rendre visite à une résidence assistée, elle était déjà très âgée et tout, et à un moment, elle me quelques mois ou quelques années avant sa mort, et à un moment, elle se penche vers moi, elle me dit, Antoine, je t'aime. c'était trop mignon. Mais c'est vrai que, encore une fois, je parle des déclics. Il n'y aurait pas eu l'accordéon à ce moment-là, il n'y aurait pas eu des décubrations. Ça n'aurait pas été mon passeport au fil de ces 60 années, parce que j'ai préféré d'autres chansons dans ce que j'ai écrit, mais les élucubrations ont été et sont encore mon passeport depuis 60 ans.
Et alors, c'est une suite de récitatifs. Votre mère, ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, c'était vrai.
C'était vrai. Bon, je pense qu'à l'époque, toutes les mères disaient à leurs enfants, on va te faire couper les cheveux. C'était mal vu d'avoir des cheveux longs.
Et puis, il y a un autre extrait aussi qui a fait scandale à l'époque.
J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix.
Et là aussi, ça n'a pas vraiment plu à tout le monde.
Ben, c'est-à-dire que c'est à l'époque, il y avait une loi qui s'appelait la loi 1920.
D'ailleurs, vous aviez chanté.
J'avais écrit une chanson sur cette loi. Et la loi 1920 interdisait de parler de contraception. Et d'avortement encore plus fort, bien sûr, parce que en 1920, après la Première Guerre mondiale, la France avait perdu près de 5 millions de citoyens, et il avait fallu repeupler la France, quoi. Donc, il était interdit de parler de contraception, il était interdit, vraiment, c'était interdit, il y avait même pas un préservatif, ça se trouvait pas, quoi, dans les pharmacies, ça existait pas. Alors que d'autres pays étaient plus libres que ça. Et j'ai, moi, ça me concernait parce que j'étais jeune, j'avais une compagne qui me plaisait beaucoup et on voulait pas être chargé de famille. Donc j'avais écrit cette chanson et vraiment ça, je dis pas que ça a aidé, que ça a révolutionné la loi, mais moins d'un an après, la loi de 1920 était abrogée. Et peut-être que ma chanson a servi un petit peu à décontracter un sujet qui était quand même très, 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 très sérieux, quoi.
Mais vous avez d'ailleurs songé à parler du haschich dans la chanson et vous avez renoncé.
Au début, oui. Au début, j'avais parlé du haschich. Et puis, c'était en fait, j'ai été, comme tous à l'époque, j'ai dû fumer 4 pétards dans ma vie, le dernier en 1984, quoi. J'ai toujours détesté de mettre de la fumée, j'ai pratiquement jamais fumé, etc. Mais je pense, il ferait mieux de, beaucoup de pays ont dépénalisé, aussi bien en Europe comme la Belgique ou d'autres, ou bien même les 40 États américains ont dépénalisé le cannabis. Et je pense, honnêtement, je pense que ça serait mieux, ça éviterait aux gens d'avoir à aller chercher leur herbe dans des endroits où on va leur vendre des saloperies beaucoup, beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus graves. Et le Canada aussi ont dépénalisé, la Californie, plein d'autres. Et je pense que, honnêtement, c'est ça qu'il faudrait en France aussi.
Alors, le mot élucubration, apparemment, ça vient de votre père.
Oui, mon père disait, qu'est-ce que c'était que ces élucubrations? On était un peu farfelu, un peu déchaîné. C'est quoi ces élucubrations? Voilà.
Alors, le succès a été incroyable. Je crois que ça a démarré à la locomotive, la première histoire, qui était la boîte du Moulin Rouge.
Oui, ça doit être la première fois que j'ai chanté en public, oui.
Et ensuite, ça a été un phénomène qui vous a totalement dépassé.
Ah, ça m'a totalement dépassé. Moi, j'avais pas du tout prévu d'être ça. J'ai pas eu à me plaindre. On peut pas se plaindre d'avoir un tel succès, d'avoir un tel engouement et tout. Mais ça a bouleversé ma vie, clairement. Ça m'a ouvert infiniment de portes tout au long de ma vie, parce que même 30 ans, 40 ans après, quand j'ai proposé de publier un livre ou de publier un film, quelque part, l'éditeur, on voyait bien qu'il avait des succès, des élucubrations dans le collimateur, quoi.
J'ai vu un article où vous comparez carrément à Guillaume Apollinaire.
Oui, ben, il y a eu, à l'époque des élucubrations, des gens, il y avait Henri Chapier, entre oui. autres, qui était un journaliste sérieux oui. et tout, qui me comparait à un qui m'a déclaré un Brassens de 20 ans, ou un autre qui avait, je sais pas s'il parlait pas de Rimbaud ou d'autres, quelque chose comme ça, c'était très impressionnant.
Et puis, naturellement, le succès a enclenché des parodies, et il y en a une qui est assez étonnante, c'est les hallucinations d'Edouard.
Oh non! Grand-mère m'a dit, Edouard, tu as trop de cheveux. Il tombe sur tes genoux et cache tes jolis yeux.
Il faut savoir que c'est Jean-Michel Riva, le parolier de Joe Dassin,
oui.
que Joe Dassin a produit l'album comme un canular, mais que votre maison de disques l'a quand même fait interdire.
Oui, c'est-à-dire que c'était... un jour, c'est Joe Dassin, le parolier de Joe Dassin, qui a dit, va faire Antoine, il a une chemise à fleurs, on va se faire un short. Et c'est la femme de Joe Dassin qui a cousu dans un rideau, dans un tissu à rideau, un bermuda à fruits, un short long à fruits, après les chemises à fleurs. Et puis, ils ont fait ce disque. Et moi, je trouvais ça très drôle. Mais à l'époque, la maison de disques, c'était Alain Boublil qui dirigeait les éditions. On dit, non, mais c'est pas possible. C'est des imitations, c'est des contrefaçons de ta chanson. Non, on leur a fait un procès. Ils ont fait un procès. Moi, je trouvais ça ridicule, quoi.
Et puis, en plus, il était interdit. Résultat, il était en vente libre partout. Moi, je l'avais acheté quand j'avais 15 ans. Et c'était pas un problème de se procurer les hallucinations d'Edouard.
Je dois dire que je pense que ce disque, cette chanson, doit détenir un record de réaction entre des gens qui ont fait soit des parodies, soit repris la chanson avec des paroles d'humoriste, de chansonnier, plus ou moins, ou soit avec carrément des attaques ou des phrases ou qui caricaturaient tout ça. Je me rappelle par exemple France Gall qui avait fait une chanson La guerre des idoles, Ronnie Bird qui était un jeune chanteur qui avait un bon succès. Et qui avait écrit une chanson qui était facile. La chanson va à l'Olympia, va à l'école centrale ou ouais. je sais pas quoi. Et puis Jean-Yann
et Jacques Martin ont chanté les émancipations d'Alphonse.
Ils avaient fait quatre versions.
Le père, il m'a dit, Alphonse, fais-toi couper les cheveux, t'auras bientôt plus de poils qu'il y en a au cul de mes bœufs. J'ai répondu, elle perd plus que mes cheveux, ils sont longs, et moins je lave ce qu'il y a dessous, et moins juste de savon.
C'est incroyable, ça, il y avait quatre versions.
Ah oui, ça.
Dans tous les genres.
Ah oui, puis il y a eu des parodies, un peu plus tard, des années, une ou deux ans plus tard, il y a eu un gars qui était étudiant en sciences ou en mathématiques. Il s'appelait Évariste. Et donc c'était Lucien Maurice, le directeur d'Europe 1 à l'époque, qui avait lancé ce garçon Évariste pour faire concurrence à Antoine.
Bon, voilà.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chansons dans l'histoire qui ont entraîné tant de réactions.
Alors il se trouve que tout ça est réuni sur Internet et à travers la date du 15 avril 2026. On va en parler dans quelques instants sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine. Nous revenons 60 ans en arrière avec ces chansons réenregistrées aujourd'hui. La date, je crois, sur les plateformes, c'est le 15 avril 2026. Mais déjà, elles sont disponibles sur votre propre site.
Notre site internet, c'est antoine.tv, simplement. Hein. Voilà. Il y a plein d'images, plein de récits, plein de photos, et puis des extraits de nos films. Et là, vous pouvez télécharger les nouvelles chansons.
Alors, pourquoi avoir repris ces chansons aujourd'hui avec un enregistrement qui rappelle justement l'époque?
C'est un petit peu une chose assez magique. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Et puis en essayant de ranger, vous savez ce que c'est, les milliers de livres que vous avez chez vous, ranger des disques durs, des choses. Je suis tombé sur toute une série d'enregistrements, d'orchestrations, que m'avait enregistré, peu de temps avant sa mort, l'arrangeur, l'orchestrateur de mon ami de toujours, Jean-Daniel Mercier, qui a été l'arrangeur des chansons avec les problèmes en 1966, 65 même. Et il avait enregistré des nouvelles orchestrations pour une dizaine de chansons à moi, de ces chansons-là. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose comme ça, de ces paroles tombées du ciel, ces musiques tombées du ciel. Et j'ai trouvé des musiciens pour compléter avec des guitares acoustiques, les seules choses qui manquaient, c'est guitare électrique et acoustique. Du coup, on a formé un petit ensemble À l'époque, le groupe qui m'accompagnait s'appelait Les Problèmes. Et tout d'un coup, on a eu l'idée d'appeler cet ensemble Les Solutions.
Voilà
60 ans après. Donc, ce sont eux qui m'accompagnent, c'est ces orchestrations-là qui m'accompagnent. C'est pas de l'intelligence artificielle, hein. C'était, il y a l'époque où il y avait les synthétiseurs, toutes ces choses, le MIDI et tout. Mais c'est un... Comment dire, je dirais pas devenu d'outre-tombe, mais c'est comme tombé du ciel, cette orchestration.
Eh bien justement, qu'est-ce qui tombe, c'est les flocons. Juste quelques flocons qui tombent, c'est dans cet album.
Juste quelques flocons qui tombent tard dans une rue du Marais. La rue est blanche, le blanc m'inonde. Tu es si douce à mon côté.
Une des premières chansons aussi de l'album.
Non, Les Flocons, c'est un peu plus tard. Les Flocons est sorti, n'est pas dans le premier album.
Ouais.
Elle est sortie dans l'année 60, oui. 66 également, mais un peu plus tard. Et de même que Je reprends la route demain est sorti en 66. Ces deux chansons, je dirais que je serais ravi qu'une de ces chansons, de ces ballades, en particulier Les Flocons, qui avait été très appréciée dans certains milieux, je me rappelle un journaliste rock très très célèbre, dont je ne retrouve pas le nom à l'instant, et disait que pour lui c'était la plus belle chanson qui ait jamais été écrite. C'était, je dois dire que sans aller jusque-là, je pense que j'aimerais bien que 60 ans après, ces chansons qui avaient un petit peu été effacées par les élucubrations, pas que ça devienne des tubes, mais que ça fasse plaisir à des gens, quoi.
À l'époque, vous aimiez écrire des ballades dans le style de Dylan ou de Donovan.
Oui, j'étais guitariste folk, moi. C'est, en fait, quand Dylan a électrifié ses chansons, parce qu'il a créé un grand pataquès au festival de folk, là, moi, je suis passé, c'est Christian Fechner, d'ailleurs, qui a dit, ah non, il faut mettre, moi, je voulais chanter avec la guitare sèche seulement. C'est Christian qui a dit, ah non, on va mettre batterie, guitare, et c'est basse et tout. Mais je suis toujours resté fidèle à ces chansons-là. J'ai raconté que je vis maintenant mon bateau. Maintenant, je l'ai confié à un ancien équipier à moi. Je le rejoindrai de temps en temps, mais il navigue actuellement en Indonésie. Et moi, je reste beaucoup de temps en Auvergne, dans ma ferme en Auvergne. Et j'ai installé une piscine démontable dans une vieille grange à peine retapée, comme ça, avec des grandes photos autour des coins de paradis que j'ai pu visiter. Et je nage tous les jours, au moins une heure, en écoutant de la musique. Et j'écoute ces musiques-là quotidiennement, et c'est beaucoup, beaucoup Dylan, beaucoup Donovan, des musiciens folk de l'époque, qui restent toujours présents pour moi.
Alors, Les Problèmes, parce que vous les avez cités, au départ, Christian Fechner vous impose ces musiciens que vous ne connaissez pas. Je crois qu'ils s'appelaient les Tarés au départ, parce que personne ne voulait d'eux.
Je sais pas. Oui, faut dire qu'à l'époque, il y avait tellement de gens, de groupes qui se créaient, qui changeaient plus ou moins de nom. Et effectivement, Christian a fait deux. Bon, un groupe de rock. C'était un groupe de rock qui était prometteur, qui m'accompagnait, quand j'ai chanté en première partie des Stones, ils ont aussi chanté avant moi, ils ont joué avant moi. Et c'était Gérard Rinaldi. C'était Philippe Elie, Jean Sarrus,
Louis
Rego. C'était une sacrée équipe quand même. Hein.
Mais au départ, vous les rencontrez comme ça, sans imaginer qu'ils vont faire carrière.
C'est Christian Fechner qui me les a présentés, quoi. Voilà. Et c'est lui qu'on a enregistré.
Voilà. Il se trouve qu'ils ont toujours été avec vous dans les premières années et que le succès des élucubrations leur a donné une idée.
Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer.
Là aussi, je vois une image de télévision sur un ring où il y a les problèmes et vous. Là voilà. Aussi, c'est un gag énorme.
Voilà, c'est à la suite du succès fou de... Christian Fechner et Alain Boublil disent « Ah, mais il faut que vous fassiez avec Les Problèmes relancer l'affaire avec une espèce de guéguerre entre Les Problèmes et moi. » Voilà. Et cette chanson, ça n'a pas eu un gros succès, elle était un petit peu comme ça. Et puis quelques jours plus tard, on chantait cette chanson pour une émission de télévision sur un bateau mouche. À Paris, pardon, excusez-moi. Sur un bateau mouche à Paris, on répète cette chanson, puis on avait un temps mort, et le soir même, on faisait une émission de radio pour Europe 1, je pense, où on nous avait demandé de chanter quelque chose qui ne soit pas de notre répertoire habituel. Du coup, on s'est mis avec Gérard, avec Jean, avec Phil, etc. On s'est mis à composer ensemble une parodie d'une chanson que j'avais faite qui s'appelait « Je dis ce que je pense et je vis comme je veux ». Et c'est devenu « Je dis n'importe quoi et je fais tout ce qu'on me dit ». On a blagué, on a pris l'accent. C'était vraiment spontané. On l'a chanté le soir. On l'a chanté le soir, cette chanson, dans la boîte de nuit d'Europe 1, je sais pas où c'était. Et puis, Christian Fechter a dit, c'est marrant votre truc là, il a dit, on va le mettre sur un disque de différents articles variés, dont un jazzman et tout. Et ce disque, ils avaient donné un nom qui voulait dire un peu les ringards, quoi, quelque chose comme ça, les trucs qui marchent. Quoi. Et le disque sort, et voilà qui se met à passer partout, car ça s'appelait pas les ringards, ça s'appelait les charlots.
Oui.
Et voilà comment les problèmes, le groupe de rock prometteur, sont devenus des amuseurs publics. Voilà. Et tout d'un coup, leur succès est arrivé. Ils étaient, et le rock, Christian, qu'est-ce qu'on fait du rock? Ben non, vous n'êtes plus du rock, vous êtes les charlots maintenant.
Exactement. Et justement, je dis ce que je pense, il y a aussi une anecdote avec la fin de cette chanson.
Ce que je veux, ce que je pense.
Et voilà. Et on entend émerde sur ce.
Oui. Mais ça, c'était. En plus, moi, je suis un peu couillon, quoi. Oui. Je suis un peu couillon. J'enregistre la chanson, et quand on enregistre une chanson un peu tonique comme ça, on la refait plusieurs fois, et à la fin, on se fatigue, quoi. À la fin, on se fatigue. Et à la fin de l'adlib, là, c'est-à-dire la répétition de la dernière phrase, des petites improvisations, j'ai dit. Je pose le casque et je dis « Eh merde !» je disais, j'ai fini d'enregistrer, quoi, terminé. Et j'arrive dans la régie et je vois Christian et Alain Boublil. Ah, ils étaient fous de joie. « Ah, on tient la fin, on tient le tube, on tient le succès, etc. » Je dis « Pourquoi ?»« Ben oui, on va le mettre dans le disque. »« Mais non, j'ai pas fait pour le disque. J'ai fait ça, mais j'en avais marre d'enregistrer. » D'ici, on le met dans le disque. Et le disque était là. Alors, il était interdit. Alors, du coup, on a dû faire une version sans le mot final pour que ça passe à la radio. Mais dans cet enregistrement, il est resté, le mot de Cambronne est resté là.
Voilà. Alors, il y a un autre événement, c'est l'Olympia. Et l'Olympia, au départ, c'est un coup de bluff de Christian Fechner, Antoine.
Oui. Bon, j'ai quelque part dans, je vais pas me plaindre du tout, encore une fois, hein, du succès de tout ce qui m'est arrivé. Ça a été tellement fabuleux. Mais c'est vrai qu'un jour, on reçoit un appel de Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, où j'allais voir, moi, Hugo Frey, Gilbert Bécaud, des tas de spectacles tout le temps, hein. Et quand j'étais étudiant. Et il dit, on fait un spectacle avec Donovan. Grand chanteur qui avait un gros succès anglais et américain aussi. Et j'aimerais que Antoine soit en première partie. Alors Christian Fechner dit, on vient vous voir. Et il arrive, on arrive là, et à mes yeux hagards, je vois Christian Fechner qui dit à Bruno Cocatrix, non, Antoine en vedette. Moi, j'étais inconnu de moi avant. Antoine en vedette. Il dit, et du coup, ça a été un spectacle. Il n'y a pas eu Donovan. Il y avait un autre groupe qui devait être là. Il y a eu plus que l'équipe de Christian Fechner. C'était brillant, mais en même temps, j'ai toujours regretté de pas avoir été un peu plus lent, avoir fait un peu mes preuves, passer sur scène, pas tout d'un coup avoir porté deux semaines de présence à l'Olympia, et ensuite j'aurais eu le plaisir d'être dans le spectacle avec Donovan. J'aurais adoré ça, parce que j'adorais les chansons de ce garçon.
Et dans les rencontres que vous avez eues, il y en a une qui a marqué aussi vos jeunes années de scène, c'est celle avec Salvador Dalí.
Oui, Salvador Dalí, c'est une autre aventure. J'ai parlé tout à l'heure de Jean-Christophe Averty, qui un jour me téléphone, donc l'été de la folie d'après les élucubrations, me dit, je tourne un portrait mou de Salvador Dalí, dans sa maison à Cadaqués, à Portligat, en Espagne, et je voudrais que vous veniez, que tu viennes chanter, enfin rencontrer Dalí et faire partie de ce tournage. J'ai jamais vu le film, mais j'ai été invité. J'y suis allé, j'ai été reçu par Dalí, qui ensuite a voulu venir me voir en spectacle. Alors, je chantais le soir même dans les arènes de Céret, je crois. Et il me dit, je viens le voir, mais n'organisez rien, moi, je viens discrètement et tout. Et j'arrive le soir et je vois Dali avait fait installer un tapis rouge, des fauteuils Louis XV, des fauteuils comme ça, et il était là avec Gala, avec Amanda Lear et avec son... C'était pas un lévrier, c'était un cheetah, c'était une...
Un
guépard.
Un guépard, voilà. Oui.
Il avait un guépard domestique qui était là.
Oui, et il
était
se promenait en laisse avec lui. Au milieu des Babou.
Babou, voilà. Au milieu des arènes de Serret. C'était quand même grand. Je l'ai revu. Il est venu me voir à Paris en sur scène aussi, et dans un cabaret qui était super agréable, qui s'appelait La Tête de l'Art.
Exactement, près de l'Opéra.
Et à la fin de mon tour de chant, j'étais avec eux à table, on était en train de discuter longuement comme ça, il y avait Amanda Lear qui était là également, et puis à la fin, il faisait un gros numéro, ça, puis à la fin, il regarde autour de lui, il dit « On peut arrêter de déconner, il n'y a plus de journalistes
». Alors, dans ces spectacles que Dali a vus, ainsi que beaucoup d'autres, il y a aussi cette chanson qui figure sur ce nouvel enregistrement.
La fumée dans les yeux, un éléphant me regarde, j'ai la tête qui bat. Les fenêtres se tordent, les portes vont éclater.
Là aussi, c'est une chanson dont on vous a beaucoup parlé, Antoine.
Oui, c'est une chanson, c'est un terme, c'est un sujet qui est... qui restera d'actualité, parce que j'en ai déjà dit un petit mot, je pense que à l'époque, moi, j'ai dû fumer 4 pétards dans ma vie, le dernier il y a 40 ans, et je buvais, par contre, quand je chantais, je buvais de l'alcool, c'était pas très bon, mais c'était légal, voilà. Mais je pense que, honnêtement, en tout cas pour le cannabis, à l'époque, c'est une chose un peu psychédélique, l'ambiance de cette chanson. Pour le cannabis, comme peut-être même ça aurait pu être le cas du LSD, si ça avait été légal, si ça avait été protégé, comme le tabac.
Oui.
Le tabac est inventible, le tabac tue beaucoup plus de gens que le cannabis n'a jamais tué. Hein. Et pourtant, si ça avait été légal, ça serait moins un fléau, quoi.
Le tabac, vous allez en faire un dans les séries de conférences que vous organisez entre Lyon et l'Est de la France. Ça commence dimanche. Et là aussi, c'est des conférences où vous évoquerez ces chansons et vos voyages aux Caraïbes, car vous continuez à faire des conférences avec les films que vous avez tournés.
Oui, comme je vous le disais, depuis 25 ans à peu près, j'ai participé à des tournées de connaissances du monde, ou bien dans les cinémas CGR. Et là, avec un nouvel organisme qui s'appelle Altaïr, qui m'a choisi comme parrain en quelque sorte, et c'est des grands voyageurs qui ramènent des films très beaux, qui présentent, c'est ce qu'on appelle le spectacle vivant du documentaire, quoi. On est là, on commente le film, on parle, on répond aux questions, etc. C'est voyage, ça va être les Caraïbes, donc j'ai les 10 dernières conférences, parce que maintenant on l'a fait dans 60 villes en plus, mais maintenant... En plus, à l'entracte, je vais présenter ces chansons.
Voilà.
Je vais présenter un petit peu ces chansons. J'offrirai le disque en cadeau aux gens qui viennent se faire dédicacer le livre. C'est toujours très agréable. Des gens, un peu de tous les âges, bon, souvent des personnes âgées, bien sûr, mais qui viennent assister à, et c'est deux heures souvent magiques, voilà.
C'est donc, les dates sont sur Antoine TV. Ces 7 nouvelles chansons, on peut appeler ça comme ça, sont voilà. Sur les plateformes. Et puis, vous reviendrez pour les suivantes.
Voilà, l'album s'appelle 60 ans après. C'est pas 20 ans après, comme c'est mon roman, non, c'est 60 ans après.
Là, c'est alors, 3 fois mieux encore, si
voilà,
j'ose dire.
Trois fois plus. Bientôt, merci d'avoir accueilli. C'est toujours, mon cher Jacques, un grand bonheur de vous retrouver.
Et réciproquement. Merci Antoine. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.